Suite du chapitre 6. Alors, les jours suivants, la vie fut adorable. Nana, entre les bras du petit, retrouvait ses 15 ans. C'était, sous la caresse de cette enfance, une fleur d'amour refleurissant chez elle, dans l'habitude et le dégoût de l'homme. Il lui venait des rougeurs subites, un émoi qui la laissait frissonnante, un besoin de rire et de pleurer. Toute une virginité inquiète, traversée de désirs, dont elle restait honteuse. Jamais elle n'avait éprouvé cela. La campagne la trempait de tendresse. Étant petite, longtemps elle avait souhaité vivre dans un pré, avec une chèvre, parce qu'un jour, sur le talus des fortifications, elle avait vu une chèvre qui bêlait, attachée à un pieu. Maintenant, cette propriété, toute cette terre à elle, la gonflait d'une émotion débordante. Tant ses ambitions se trouvaient dépassées. Elle était ramenée aux sensations neuves d'une gamine. Et le soir, lorsque, étourdie par sa journée vécue au grand air, grisée de l'odeur des feuilles, elle montait rejoindre son zizi, caché derrière le rideau, ça lui semblait une escapade de pensionnaire en vacances. Un amour avec un petit cousin qu'elle devait épouser, tremblante au moindre bruit, redoutant que ses parents ne l'entendissent, goûtant les tâtonnements délicieux et les voluptueuses épouvantes d'une première faute. Nana eut, à ce moment, des fantaisies de fille sentimentale. Elle regardait la lune pendant des heures. Une nuit, elle voulut descendre au jardin avec Georges, quand toute la maison fut endormie. Et ils se promenèrent sous les arbres, les bras à la taille, et ils allèrent se coucher dans l'herbe où la rosée les trempa. Une autre fois, dans la chambre, après un silence, elle sanglota au cou du petit, en balbutiant qu'elle avait peur de mourir. Elle chantait souvent, à demi-voix, une romance de Madame Lerat, pleine de fleurs et d'oiseaux, s'attendrissant aux larmes, s'interrompant pour prendre Georges dans une étreinte de passion, en exigeant de lui des serments d'amour éternel. Enfin, elle était bête, comme elle le reconnaissait elle-même, lorsque tous les deux, redevenus camarades, fumaient des cigarettes au bord du lit, les jambes nues, tapant le bois des talons. Mais ce qui acheva de fondre le cœur de la jeune femme, ce fut l'arrivée de Louisée. Sa crise de maternité eut la violence d'un coup de folie. Elle emportait son fils au soleil pour le regarder gigoter. Elle se roulait avec lui sur l'herbe après l'avoir habillé comme un jeune prince. Tout de suite, elle voulut qu'il dormît près d'elle, dans la chambre voisine, où Madame Lerat, très impressionnée par la campagne, ronflait dès qu'elle était sur le dos. Et Louisée ne faisait pas le moindre tort à Zizi, au contraire. Elle disait qu'elle avait 2 enfants. Elle les confondait dans le même caprice de tendresse. La nuit, à plus de 10 reprises, elle lâchait Zizi pour voir si Louisée avait une bonne respiration. Mais quand elle revenait, elle reprenait son Zizi avec un restant de ses caresses maternelles. Elle faisait la maman. Tandis que lui, vicieux, aimant bien être petit au bras de cette grande fille, se laisser bercer comme un bébé qu'on endort. C'était si bon que, charmée de cette existence, elle lui proposa sérieusement de ne plus jamais quitter la campagne. Il renverrait tout le monde, il vivrait seul, lui, elle et l'enfant. Et ils firent 1000 projets jusqu'à l'aube sans entendre Madame Lerat qui ronflait à poing fermé, lasse d'avoir cueilli des fleurs champêtres. Cette belle vie dura près d'une semaine. Le comte Muffat venait tous les soirs et s'en retournait, la face gonflée, les mains brûlantes. Un soir, il ne fut même pas reçu, Stenner ayant dû faire un voyage à Paris. On lui dit que madame était souffrante. Nana se révoltait davantage chaque jour à l'idée de tromper Georges. Un petit si innocent et qui croyait en elle. Elle se serait regardée comme la dernière des dernières. Puis ça l'aurait dégoûtée. Zoé, qui assistait, muette et dédaigneuse, à cette aventure, pensait que madame devenait bête. le sixième jour, tout d'un coup, une bande de visiteurs tomba dans cette idylle. Nana avait invité un tas de monde, croyant qu'on ne viendrait pas. Aussi, une après-midi, demeura-t-elle stupéfaite et très contrariée en voyant un omnibus complet s'arrêter devant la grille de la Mignotte. « C'est nous !» cria Mignon, qui, le premier, descendit de la voiture, d'où il tira ses fils, Henri et Charles. La Bordette parut ensuite, donnant la main à un défilé interminable de dames. Lucie Stewart, Caroline Equet, Tatan Néné, Maria Blond. Nana espérait que c'était fini, lorsque la Faloise sauta du marchepied pour recevoir dans ses bras tremblants Gaga et sa fille Amélie. Ça faisait 11 personnes. L'installation fut laborieuse. Il y avait, à la Mignotte, 5 chambres d'amis, dont une était déjà occupée par Madame Lerat et Louisée. On donna la plus grande au ménage Gaga et la Faloise, en décidant qu'Amélie coucherait sur un lit de sangle, à côté, dans le cabinet de toilette. Mignon et ses deux fils eurent la troisième chambre, la Bordette la quatrième. Restait une pièce qu'on transforma en dortoir avec 4 lits pour Lucie, Caroline, Tatan et Maria. Quant à Stenner, il dormirait sur le divan du salon. Au bout d'une heure, lorsque tout son monde fut casé, Nana, d'abord furieuse, était enchantée de jouer à la châtelaine. Ces dames la complimentaient sur la Mignotte, une propriété renversante, ma chère. Puis, elle lui apportait une bouffée de l'air de Paris, les potins de cette dernière semaine, parlant toutes à la fois, avec des rires, des exclamations, des tapes. À propos, et Bordenave, qu'avait-il dit de sa fugue ? Mais pas grand-chose. Après avoir gueulé qu'il la ferait ramener par les gendarmes, il l'avait simplement doublée le soir. Et même que la doublure, la petite Violaine, obtenait dans la blonde Vénus un très joli succès. Cette nouvelle rendit Nana sérieuse. Il n'était que 4 heures. On parla de faire un tour. « Vous ne savez pas, dit Nana, je partais ramasser des pommes de terre quand vous êtes arrivés. » Alors tous voulurent aller ramasser des pommes de terre, sans même changer de vêtements. Ce fut une partie. Le jardinier et 2 aides se trouvaient déjà dans le champ, au fond de la propriété. Ces dames se mirent à genoux, fouillant la terre avec leurs bagues, poussant des cris lorsqu'elles découvraient une pomme de terre très grosse. Ça leur semblait si amusant. Mais Tatan Néné triomphait. Elle en avait tellement ramassé dans sa jeunesse qu'elle s'oubliait et donnait des conseils aux autres, en les traitant de bêtes. Les messieurs travaillaient plus mollement. Mignon, l'air brave homme, profitait de son séjour à la campagne pour compléter l'éducation de ses fils. Il leur parlait de Parmentier. Le soir, le dîner fut d'une gaieté folle. On dévorait. Nana, très lancée, s'empoigna avec son maître d'hôtel, un garçon qui avait servi à l'évêché d'Orléans. Au café, les dames fumèrent. Un bruit de noces à tout casser sortait par les fenêtres, se mourait au loin dans la sérénité du soir. Tandis que les paysans attardés entre les haies, tournant la tête, regardaient la maison flambante. « Ah, c'est embêtant que vous repartiez après-demain, » dit Nana. « Enfin, nous allons toujours organiser quelque chose. » Et l'on décida qu'on irait le lendemain, un dimanche, visiter les ruines de l'ancienne abbaye de Chamont, qui se trouvait à 7 kilomètres. 5 voitures viendraient d'Orléans prendre la société après le déjeuner et la ramèneraient dîner à la Mignotte vers 7 heures. Ce serait charmant. Ce soir-là, comme d'habitude, le comte Muffa monta le coteau pour sonner à la grille. Mais le flamboiement des fenêtres, les grands rires, l'étonnèrent. Il comprit, en reconnaissant la voix de Mignon, et s'éloigna, enragé par ce nouvel obstacle, poussé à bout, résolu à quelque violence. Georges, qui passait par une petite porte dont il avait une clé, monta tranquillement dans la chambre de Nana, enfilant le long des murs. Seulement, il dut l'attendre jusqu'à minuit passé. Elle parut enfin, très grise, plus maternelle encore que les autres nuits. Quand elle buvait, ça la rendait si amoureuse qu'elle en devenait collante. Ainsi, elle voulait absolument qu'il l'accompagnât à l'abbaye de Chamond. Lui résistait, ayant peur d'être vu. Si on l'apercevait en voiture avec elle, ça ferait un scandale abominable. Mais elle fondit en larmes, prise d'un désespoir bruyant de femme sacrifiée. Et il la consola. Il lui promit formellement d'être de la partie. « Alors, tu m'aimes bien ? » bégayait-elle. « Répète que tu m'aimes bien. Dis, mon loup chéri, si je mourais, est-ce que ça te ferait beaucoup de peine ?» Au fond d'être, le voisinage de Nana bouleversait la maison. Chaque matin, pendant le déjeuner, la bonne Madame Hugon revenait malgré elle sur cette femme, racontant ce que son jardinier lui rapportait, éprouvant cette sorte d'obsession qu'exercent les filles sur les bourgeoises les plus dignes. Elle, si tolérante, était révoltée, exaspérée, avec le vague pressentiment d'un malheur qui l'effrayait le soir, comme si elle eût connu la présence dans la contrée d'une bête échappée de quelque ménagerie. Aussi cherchait-elle querelle à ses invités, en les accusant tous de rôder autour de la mignotte. On avait vu le comte de Vandœuvre rire sur une grande route avec une dame en cheveux. Mais il se défendait, il reniait Nana. Car c'était en effet Lucie qui l'accompagnait, pour lui conter comment elle venait de flanquer son troisième prince à la porte. Le marquis de Choire sortait aussi tous les jours. Seulement, il parlait d'une ordonnance de son docteur. Pour Daguenet et Fauchery, Madame Hugon se montrait injuste. Le premier, surtout, ne quittait pas les fondettes, renonçant au projet de renouer, montrant auprès d'Estelle un respectueux empressement. Fauchery restait de même avec les dames Muffat. Une seule fois, il avait rencontré dans un sentier Mignon, les bras pleins de fleurs, faisant un cours de botanique à ses fils. Les deux hommes s'étaient serrés la main en se donnant des nouvelles de Rose. Elle se portait parfaitement. Ils avaient chacun reçu le matin une lettre où elle les priait de profiter quelque temps encore du bon air. De tous ses hôtes, la vieille dame n'épargnait donc que le comte Muffat et Georges. Le comte, qui prétendait avoir de graves affaires à Orléans, ne pouvait courir la gueuse. Et quant à Georges, le pauvre enfant finissait par l'inquiéter, car il était pris chaque soir de migraines épouvantables qui le forçaient de se coucher au jour. Cependant, Fauchery s'était fait le cavalier ordinaire de la comtesse Sabine, tandis que le comte s'absentait toutes les après-midi. Lorsqu'on allait au bout du parc, il portait son pliant et son ombrelle. D'ailleurs, il l'amusait par son esprit baroque de petit journaliste. Il la poussait à une de ces intimités soudaines que la campagne autorise. Elle avait paru se livrer tout de suite, éveillée à une nouvelle jeunesse, en compagnie de ce garçon dont la moquerie bruyante ne semblait pouvoir la compromettre. Et parfois, lorsqu'il se trouvait seul une seconde, derrière un buisson, leurs yeux se cherchaient. Ils s'arrêtaient au milieu d'un rire, brusquement sérieux, avec un regard noir, comme s'ils s'étaient pénétrés et compris. Le vendredi, au déjeuner, il avait fallu mettre un nouveau couvert. Monsieur Théophile Venot, que Madame Hugon se souvint d'avoir invité l'hiver dernier chez les Muffat, venait d'arriver. Il arrondissait le dos, il affectait une bonhomie d'homme insignifiant, sans paraître s'apercevoir de la déférence inquiète qu'on lui témoignait. Quand il eut réussi à se faire oublier, tout en croquant de petits morceaux de sucre au dessert, il examina Daguenet, qui passait des fraises à Estelle. Il écouta Fauchery, dont une anecdote égayait beaucoup la comtesse. Dès qu'on le regardait, il souriait de son air tranquille. Au sortir de table, il prit le bras du comte, il l'emmena dans le parc. On savait qu'il gardait sur celui-ci une grande influence depuis la mort de sa mère. Des histoires singulières couraient au sujet de la domination exercée dans la maison par l'ancien avoué. Fauchery, que son arrivée gênait sans doute, expliquait à Georges et à Daguenay les sources de sa fortune, un gros procès dont les jésuites l'avaient chargé autrefois. Et selon lui, ce bonhomme, un terrible monsieur avec sa mine douce et grasse, trempait maintenant dans tous les tripotages de la prêtraille. Les deux jeunes gens s'étaient mis à plaisanter, car ils trouvaient un air idiot au petit vieillard. L'idée d'un veneau inconnu, d'un veneau gigantesque, instrumentant pour le clergé, leur semblait une imagination comique. Mais ils se turent lorsque le comte Muffat reparut, toujours au bras du bonhomme, très pâle, les yeux rouges, comme s'il avait pleuré. « Bien sûr, ils auront causé de l'enfer !» murmura Fauchery goguenard. La comtesse Sabine, qui avait entendu, tourna lentement la tête, et leurs yeux se rencontrèrent, avec un de ces longs regards dont ils se sondaient prudemment avant de se risquer. D'habitude, après le déjeuner, on se rendait au bout du parterre, sur une terrasse qui dominait la plaine. Le dimanche, l'après-midi fut d'une douceur exquise. On avait craint de la pluie vers 10 heures, mais le ciel, sans se découvrir, s'était comme fondu en un brouillard laiteux, en une poussière lumineuse toute blonde de soleil. Alors, Madame Hugon proposa de descendre par la petite porte de la terrasse et de faire une promenade à pied du côté de Gumières jusqu'à la Choue. Elle aimait la marche, très alerte encore pour ses 60 ans. Tout le monde, d'ailleurs, jura qu'on n'avait pas besoin de voiture. On arriva ainsi, un peu débandé, au pont de bois jeté sur la rivière. Fauchery et Daguenay étaient en avant, avec les dames Muffat. Le comte et le marquis venaient ensuite, aux côtés de Madame Hugon. Tandis que Vandeuvre, la mine correcte et ennuyée sur cette grande route, marchait à la queue, fumant un cigare. Monsieur Veneau, ralentissant ou pressant le pas, allait d'un groupe à un autre avec un sourire, comme pour tout attendre. « Et ce pauvre Georges qui est à Orléans ?» répétait Madame Hugon. « Il a voulu consulter sur ses migraines le vieux docteur Tavernier qui ne sort plus. Oui, vous n'étiez pas levé, il est parti avant 7 heures. Ça le distraira toujours. » Mais elle s'interrompit pour dire « Tiens, qu'ont-ils donc à s'arrêter sur le pont ?» En effet, ces dames, Daguenay, Fauchery, se tenaient immobiles à la tête du pont, l'air hésitant, comme si un obstacle les eût inquiétés. Le chemin était libre pourtant. « Avancez !» cria le comte. Ils ne bougèrent pas, regardant quelque chose qui venait et que les autres ne pouvaient voir encore. La route tournait, bordée d'un épais rideau de peupliers. Cependant, une rumeur sourde grandissait, des bruits de roues mêlés à des rires, à des claquements de fouet. Et tout d'un coup, 5 voitures parurent, à la file, pleines à rompre les essieux, égayées par un tapage de toilettes claires, bleues et roses. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit Madame Hugon surprise. Puis elle sentit, elle devina, révoltée d'un pareil envahissement de sa route. « Oh, cette femme » murmura-t-elle. « Marchez, marchez donc, n'ayez pas l'air !» Mais il n'était plus temps. Les 5 voitures qui conduisaient Nana et sa société aux ruines de Chamon s'engageaient sur le petit pont de bois. Fauchery, Daguenay, les dames Muffat durent reculer, pendant que Madame Hugon et les autres s'arrêtaient également, échelonnés le long du chemin. Ce fut un défilé superbe. Les rires avaient cessé dans les voitures, des figures se tournaient curieusement. On se dévisagea, au milieu d'un silence que coupait seul le trot cadencé des chevaux. Dans la première voiture, Maria Blond et Tatan Aîné, renversées comme des duchesses, les jupes bouffant par-dessus les roues, avaient des regards dédaigneux pour ces femmes honnêtes qui allaient à pied. Ensuite, Gaga emplissait toute une banquette, noyant près d'elle la Faloise, dont on ne voyait que le nez inquiet. Puis venaient Caroline Eckey avec la Bordette, Lucie Stewart avec Mignon et ses fils, et tout au bout, occupant une Victoria en compagnie de Stenner, Nana, qui avait devant elle, sur un strapontin, ce pauvre Mignon de Zizi, fourrant ses genoux dans les siens. « C'est la dernière, n'est-ce pas ?» demanda tranquillement la comtesse à Faucherie, en affectant de ne point reconnaître Nana. La roue de la Victoria l'effleura presque, sans qu'elle fît un pas en arrière. Les deux femmes avaient échangé un regard profond, un de ces examens d'une seconde, complets et définitifs. Quant aux hommes, ils furent tout à fait bien. Faucherie et Daguenay, très froids, ne reconnurent personne. Le marquis, anxieux, craignant une farce de la part de ces dames, avait cassé un brin d'herbe qu'il roulait entre ses doigts. Seul Vandeuvre, resté un peu à l'écart, salua des paupières Lucie qui lui souriait au passage. « Prenez garde !» avait murmuré M. Venot, debout derrière le comte Muffa. Celui-ci, bouleversé, suivait des yeux cette vision de Nana, courant devant lui. Sa femme, lentement, s'était tournée et l'examinait. Alors il regarda la terre, comme pour échapper au galop des chevaux qui lui emportaient la chair et le cœur. Il aurait crié de souffrance. Il venait de comprendre, en apercevant Georges perdu dans les jupes de Nana. Un enfant! Cela le brisait qu'elle lui eût préféré un enfant. Stenner lui était égal, mais cet enfant! Cependant, Madame Hugon n'avait pas reconnu Georges d'abord. Lui, en traversant le pont, aurait sauté dans la rivière si les genoux de Nana ne l'avaient retenu. Alors, glacé, blanc comme un linge, il se tint très raide. Il ne regardait personne. Peut-être qu'on ne le verrait pas. « Ah, mon Dieu !» dit tout à coup la vieille dame. « C'est Georges qui est avec elle !» Les voitures avaient passé au milieu de ce malaise de gens qui se connaissaient et qui ne se saluaient pas. Cette rencontre, délicate, si rapide, semblait s'être éternisée. Et maintenant, les roues emportaient plus gaiement dans la campagne blonde ces charretées de filles fouettées de grand air. Des bouts de toilettes vives flottaient, des rires recommençaient, avec des plaisanteries et des regards jetés en arrière, sur ces gens comme il faut, restés au bord de la route, l'air vexé. Nana, en se retournant, puis voir les promeneurs hésiter, puis revenir sur leurs pas sans traverser le pont. Madame Hugon s'appuyait au bras du comte Muffa, muette, et si triste que personne n'osait la consoler. « Dites donc !» cria Nana à Lucie qui se penchait dans la voiture voisine. « Avez-vous vu Faucherie, ma chère? A-t-il fait une sale tête? Il me paiera ça !» « Et Paul, un garçon pour lequel j'ai été si bonne, pas seulement un signe. Ouais, ils sont polis. » Et elle fit une scène affreuse à Stenner, qui trouvait très correcte l'attitude de ces messieurs. Alors, elle ne méritait pas même un coup de chapeau. Le premier goujat venu pouvait les insulter. Merci, il était propre lui aussi. C'était complet. On devait toujours saluer une femme. « Qui est-ce, la grande ?» demanda Lucie à toute volée dans le bruit des roues. « C'est la comtesse Muffa, » répondit Stenner. « Tiens, je m'en doutais, » dit Nana. « Eh bien, mon cher, elle a beau être comtesse, c'est une pas grand-chose. Oui, oui, une pas grand-chose. Vous savez, j'ai l'œil, moi. Maintenant, je la connais comme si je l'avais faite, votre comtesse. Voulez-vous parier qu'elle couche avec cette vipère de Faucherie ?» « Je vous dis qu'elle y couche. On sent bien ça entre femmes. » Stenner haussa les épaules. Depuis la veille, sa mauvaise humeur grandissait. Il avait reçu des lettres qui l'obligeaient à partir le lendemain matin, puis ce n'était pas drôle de venir à la campagne pour dormir sur le divan du salon. « Et ce pauvre bébé !» reprit Nana subitement attendrie, en s'apercevant de la pâleur de Georges, qui était resté raide. La respiration coupée. « Croyez-vous que maman m'ait reconnue ? » bégaya-t-il enfin. Oh, ça, pour sûr, elle a crié. Aussi, c'est ma faute. Il ne voulait pas en être, je l'ai forcé. Écoute, Zizi, veux-tu que j'écrive à ta maman? Elle a l'air bien respectable. Je lui dirai que je ne t'avais jamais vue, que c'est Stenner qui t'a amené aujourd'hui pour la première fois. Non, non, n'écris pas, dit Georges très inquiet. J'arrangerai ça moi-même. Et puis, si on m'ennuie, je ne rentre plus. Mais il demeura absorbé, cherchant des mensonges pour le soir. Les cinq voitures roulaient en plaine, sur une interminable route droite, bordée de beaux arbres. L'air, d'un gris argenté, baignait la campagne. Ces dames continuaient à se crier des phrases d'une voiture à l'autre, derrière le dos des cochers, qui riaient de ce drôle de monde. Par moments, une d'elles se mettait debout pour voir, puis s'entêtait, appuyée aux épaules d'un voisin, tant qu'une secousse ne la rejetait pas sur la banquette. Caroline et Kay, cependant, étaient en grande conversation avec la Bordette. Tous deux tombaient d'accord que Nana vendrait sa campagne avant 3 mois, et Caroline chargeait la Bordette de lui racheter ça en sous-main pour 4 sous. Devant eux, la Faloise, très amoureux, ne pouvant atteindre la nuque apoplectique de Gaga, lui baisait un coin de l'échine sur sa robe, dont l'étoffe tendue craquait. Tandis que, raide au bout du strapontin, Amélie leur disait de finir, agacée d'être là, les bras ballants, à regarder embrasser sa mère. Dans l'autre voiture, Mignon, pour étonner Lucie, exigeait de ses fils une fable de La Fontaine. Henri, surtout, était prodigieux. Il vous lâchait ça d'un trait sans se reprendre. Mais Maria Blond, en tête, finissait par s'embêter, lasse de faire poser cette bûche de tatan néné, à qui elle racontait que les crémières de Paris fabriquaient des œufs avec de la colle et du safran. « C'était trop loin, on n'arriverait donc pas !» Et la question, transmise de voiture en voiture, vint jusqu'à Nana, qui, après avoir interrogé son cocher, se leva pour crier « Encore un petit quart d'heure. Vous voyez là-bas cette église, derrière les arbres ?» Puis elle reprit « Vous ne savez pas? Il paraît que la propriétaire du château de Chamont est une ancienne du temps de Napoléon. Oh, une noceuse, m'a dit Joseph, qui le tient des domestiques de l'évêché. Une noceuse comme il n'y en a plus. Maintenant, elle est chez les curés. Elle s'appelle ? Demanda Lucie. Madame Danglars. Irma Danglars, je l'ai connue ! Cria Gaga. Ce fut, le long des voitures, une suite d'exclamations, emportées dans le trot plus vif des chevaux. Des têtes s'allongeaient pour voir Gaga. Maria Blond et Tatan Néné se tournèrent, à genoux sur la banquette, les poings dans la capote renversée. Et des questions se croisaient, avec des mots méchants, que tempérait une sourde admiration. Gaga l'avait connue, ça les frappait toutes de respect pour ce passé lointain. « Par exemple, j'étais jeune, » reprit Gaga. « N'importe, je me souviens, je la voyais passer. On la disait dégoûtante chez elle. Mais dans sa voiture, elle avait un chic. Et des histoires épatantes, des saletés, des roublardises à crever. Ça ne m'étonne pas si elle a un château. Elle vous nettoyait un homme rien qu'à souffler dessus. Ah, Irma Danglars vit encore. » « Eh bien, mes petites chattes, elle doit aller dans les 90 ans. » Du coup, ces dames devinrent sérieuses. 90 ans! Il n'y en avait pas une d'elles, comme le cria Lucie, fichue de vivre jusque-là. Toutes des patraques. D'ailleurs, Nana déclara qu'elle ne voulait pas faire de vieux os. C'était plus drôle. On arrivait. La conversation fut coupée par les claquements de fouet des cochers qui lançaient leurs bêtes. Pourtant, au milieu du bruit, Lucie continua, sautant à un autre sujet, pressant Nana de partir avec la bande le lendemain. L'exposition allait fermer, ces dames devaient rentrer à Paris, où la saison dépassait leurs espérances. Mais Nana s'entêtait. Elle abominait Paris, elle n'y ficherait pas les pieds de sitôt. N'est-ce pas, chérie, nous restons ?» dit-elle en serrant les genoux de Georges, sans s'inquiéter de Stenner. Les voitures s'étaient brusquement arrêtées. Surprise, la société descendit dans un endroit désert au bas d'un coteau. Il fallut qu'un des cochers leur montrât du bout de son fouet les ruines de l'ancienne abbaye de Chamont, perdue dans les arbres. Ce fut une grosse déception. Les dames trouvèrent ça idiot. Quelques tas de décombres, couverts de ronces, avec une moitié de tour écroulée. Vrai, ça ne valait pas la peine de faire de lieu. Le cocher leur indiqua alors le château, dont le parc commençait près de l'abbaye, en leur conseillant de prendre un petit chemin et de suivre les murs. Ils feraient le tour pendant que les voitures iraient les attendre sur la place du village. C'était une promenade charmante. La société accepta. « Fichtre, Irma se met bien !» dit Gaga en s'arrêtant devant une grille dans l'angle du parc, sur la route. Tous, silencieusement, regardèrent le fourré énorme qui bouchait la grille. Puis, dans le petit chemin, ils suivirent la muraille du parc, levant les yeux pour admirer les arbres, dont les branches hautes débordaient en une voûte épaisse de verdure. Au bout de 3 minutes, ils se trouvèrent devant une nouvelle grille. Celle-là laissait voir une large pelouse où 2 chaînes séculaires faisaient des nappes d'ombre. Et 3 minutes plus loin, une autre grille encore déroula devant eux une avenue immense, un couloir de ténèbres au fond duquel le soleil mettait la tache vive d'une étoile. Un étonnement, d'abord silencieux, leur tirait peu à peu des exclamations. Ils avaient bien essayé de blaguer avec une pointe d'envie, mais décidément ça les empoignait. Quelle force, cette Irma! C'est ça qui donnait une crâne idée de la femme. Les arbres continuaient et sans cesse revenaient des manteaux de lierre coulant sur le mur, des toits de pavillons qui dépassaient, des rideaux de peupliers qui succédaient à des masses profondes d'ormes et de trembles. Ça ne finirait donc pas. Ces dames auraient voulu voir l'habitation, lasses de toujours tourner sans apercevoir autre chose à chaque échappée que des enfoncements de feuillage. Elles prenaient les barreaux des 2 mains, appuyant le visage contre le fer. Une sensation de respect les envahissait, tenues de la sorte à distance, rêvant du château invisible dans cette immensité. Bientôt, ne marchant jamais, elles éprouvèrent une fatigue. Et la muraille ne cessait point. À tous les coudes du petit chemin désert, la même ligne de pierres grises s'allongeait. Quelques-unes, désespérant d'arriver au bord, parlaient de revenir en arrière. Mais plus la course les brisait, et plus elles devenaient respectueuses, emplies davantage à chaque pas de la tranquille et royale majesté de ce domaine. « C'est bête à la fin !» dit Caroline Équet, les dents serrées. Nana la fit taire d'un haussement d'épaules. Elle, depuis un moment, ne parlait plus, un peu pâle, très sérieuse. Brusquement, au dernier détour, comme on débouchait sur la place du village, la muraille cessa, le château parut, au fond d'une cour d'honneur. Tous s'arrêtèrent, saisis par la grandeur hautaine des larges perrons, des 20 fenêtres de façade, du développement des 3 ailes dont les briques s'encadraient dans des cordons de pierre. Henri IV avait habité ce château historique, où l'on conservait sa chambre, avec le grand lit tendu de velours de Gênes. Nana, suffoquée, eut un petit soupir d'enfant. « Crénom !» murmura-t-elle très bas pour elle-même. Mais il y eut une forte émotion. Gaga, tout à coup, dit que c'était elle, Irma, en personne, qui se tenait là-bas, devant l'église. Elle la reconnaissait bien. Toujours droite, la matine, malgré son âge, et toujours ses yeux, quand elle prenait son air. On sortait des vêpres. Madame, un instant, resta sous le porche. Elle était en soie feuille morte, très simple et très grande, avec la face vénérable d'une vieille marquise, échappée aux horreurs de la Révolution. Dans sa main droite, un gros paroissien luisait au soleil, et lentement elle traversa la place, suivie d'un laquais en livrée qui marchait à 15 pas. L'église se vidait, tous les gens de Chamon la saluaient profondément. Un vieillard lui baisa la main, une femme voulut se mettre à genoux. C'était une reine puissante, comblée d'ans et d'honneur. Elle monta le perron. Elle disparut. « Voilà où l'on arrive, quand on a de l'ordre !» dit Mignon d'un air convaincu, en regardant ses fils, comme pour leur donner une leçon. Alors, chacun dit son mot. La Bordette la trouvait prodigieusement conservée. Maria Blond lâcha une ordure, tandis que Lucie se fâchait, déclarant qu'il fallait honorer la vieillesse. Toutes, en somme, convinrent qu'elle était inouïe. On remonta en voiture. De Chamon à la Mignotte, Nana demeura silencieuse. Elle s'était retournée 2 fois pour jeter un regard sur le château. Bercée par le bruit des roues, elle ne sentait plus Stenner à son côté. Elle ne voyait plus Georges devant elle. Une vision se levait du crépuscule. Madame passait toujours, avec sa majesté de reine puissante, comblée d'ans et d'honneur. Le soir, Georges rentra au Fondette pour le dîner. Nana, de plus en plus distraite et singulière, l'avait envoyé demander pardon à sa maman. « Ça se devait, » disait-elle avec sévérité, prise d'un brusque respect de la famille. Même, elle lui fit jurer de ne pas revenir coucher cette nuit-là. Elle était fatiguée, et lui ne remplirait que son devoir en montrant de l'obéissance. Georges, très ennuyé de cette morale, parut devant sa mère, le cœur gros, la tête basse. Heureusement, son frère Philippe était arrivé, un grand diable de militaire très gai. Cela coupa court à la scène qu'il redoutait. Madame Hugon se contenta de le regarder, avec des yeux pleins de larmes, tandis que Philippe, mis au courant, le menaçait d'aller le chercher par les oreilles s'il retournait chez cette femme. Georges, soulagé, calculait sournoisement qu'il s'échapperait le lendemain, vers 2 heures, pour régler ses rendez-vous avec Nana. Cependant, au dîner, les hôtes des Fondettes parurent gênés. Vandeuvre avait annoncé son départ, il voulait ramener Lucie à Paris, trouvant drôle d'enlever cette fille qu'il voyait depuis 10 ans sans un désir. Le marquis de Choirs, le nez dans son assiette, songeait à la demoiselle de Gaga. Il se souvenait d'avoir fait sauter Lily sur ses genoux. Comme les enfants grandissaient. Elle devenait très grasse, cette petite. Mais le comte Muffat surtout resta silencieux, absorbé, la face rouge. Il avait jeté sur Georges un long regard. Au sortir de table, il monta s'enfermer en parlant d'un peu de fièvre. Derrière lui, M. Venot s'était précipité, et il y eut, en haut, une scène, le comte tombé sur le lit, étouffant dans son oreiller des sanglots nerveux, tandis que M. Venot, d'une voix douce, l'appelait son frère et lui conseillait d'implorer la miséricorde divine. Il ne l'entendait pas, il râlait. Tout d'un coup, il sauta du lit, il bégaya. « J'y vais, je ne peux plus !»« C'est bien, » dit le vieillard, « je vous accompagne. » Comme il sortait, 2 ombres s'enfonçaient dans les ténèbres d'une allée. Tous les soirs, Fauchery et la comtesse Sabine laissaient maintenant Daguenet aider Estelle à préparer le thé. Sur la grande route, le comte marchait si vite que son compagnon devait courir pour le suivre. Essoufflé, ce dernier ne cessait de lui prodiguer les meilleurs arguments contre les tentations de la chair. L'autre n'ouvrait pas la bouche, emporté dans la nuit. Arrivé devant la Mignotte, il dit simplement « Je ne peux plus, allez-vous-en » « Alors, que la volonté de Dieu soit faite !» murmura M. Venot. « Il prend tous les chemins pour assurer son triomphe. Votre péché sera une de ses armes. » À la Mignotte, on se querella pendant le repas. Nana avait trouvé une lettre de Bordenave où il lui conseillait de prendre du repos, en ayant l'air de se ficher d'elle. La petite Violaine était rappelée deux fois tous les soirs. Et, comme Mignon la pressait encore de partir le lendemain avec eux, Nana, exaspérée, déclara qu'elle entendait ne pas recevoir de conseils. D'ailleurs, elle s'était montrée à table d'un collet monté ridicule. Madame Lerat, ayant lâché un mot raide, elle cria que, nom de Dieu, elle n'autorisait personne, pas même sa tante, à dire des saletés en sa présence. Puis, elle rasa tout le monde par ses bons sentiments, un accès d'honnêteté bête, avec des idées d'éducation religieuse pour Louisée et tout un plan de bonne conduite pour elle. Comme on riait, elle eut des mots profonds, des hochements de bourgeoises convaincues, disant que l'ordre seul menait à la fortune et qu'elle ne voulait pas mourir sur la paille. Ces dames, agacées, se récriaient. « Pas possible, on avait changé Nana !» Mais elle, immobile, retombait dans sa rêverie, les yeux perdus, voyant se lever la vision d'une Nana très riche et très saluée. On montait se coucher quand Muffa se présenta. Ce fut la Bordette qu'il aperçut dans le jardin. Il comprit. Il lui rendit le service d'écarter Stenner et de le conduire par la main, le long du corridor obscur, jusqu'à la chambre de Nana. La Bordette, pour ces sortes d'affaires, était d'une distinction parfaite, très adroit, et comme ravie de faire le bonheur des autres. Nana ne se montra pas surprise, ennuyée seulement de la rage de Muffa après elle. Il fallait être sérieuse dans la vie, n'est-ce pas? C'était trop bête d'aimer, ça ne menait à rien. Puis elle avait des scrupules à cause du jeune âge de Zizi. Vrai, elle s'était conduite d'une façon pas honnête. Ma foi, elle rentrait dans le bon chemin. Elle prenait un vieux. « Zoé, dit-elle à la femme de chambre, enchantée de quitter la campagne, fais les malles demain en te levant, nous retournons à Paris. » Et elle coucha avec Muffa, mais sans plaisir.